l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci de votre fidélité, l'antenne vous appartient et ce matin nous parlerons football. Vous nous direz qui mérite le titre de meilleur joueur africain de l'année puisque ce soir la Confédération africaine de football remettra ses trophées 2016 lors d'une cérémonie qui se tiendra à Abuja au Nigeria. Difficile de dire, soyons honnêtes, qui des trois finalistes remportera le prestigieux trophée. En tout cas, le tenant du titre, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, a terminé la saison dernière deuxième meilleur buteur du championnat allemand. L'Algérien Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur de l'année du championnat d'Angleterre et le Sénégalais Sadio Mané a battu un record, celui du transfert le plus cher pour un footballeur africain. Liverpool a mis sur la table, tenez-vous bien, près de 40 millions d'euros pour l'acquérir. Alors quels sont vos pronostics? Vous continuez à nous appeler, à nous rejoindre et nous vous donnerons la parole dans 30 minutes. 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos votes et vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure, évidemment, pour alimenter le débat. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonjour Francis.
Bonjour Rwanda, bonjour à tous les auditeurs de RFI au Bénin.
Vous nous appelez du Bénin, vous êtes à Abomey-Calavi, nous vous écoutons.
Ok, monsieur Rouen, le premier ministre de l'État hébreu est mis en examen dans une affaire de corruption en ces derniers temps en Israël. Moi, Francis Tchindro, j'aimerais savoir comment un premier ministre en fonction ne bénéficie pas d'une immunité. La deuxième question est, s'il arrivait que Netanyahou soit inculpé, serait-il fragilisé malgré sa popularité? Et ma dernière et troisième question est de savoir, est-ce qu'il risque son poste de Premier ministre dans cette dernière affaire de corruption le concernant?
Ouais, bonne question. C'est vrai que lundi soir, pendant près de 3 heures, Benjamin Netanyahou a dû répondre aux questions de la police. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Francis.
Vous êtes le correspondant des RFI à Jérusalem, le Premier ministre israélien qui doit s'expliquer sur des cadeaux de plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'il aurait reçus d'hommes d'affaires israéliens et étrangers. En tout cas, visiblement, et notre auditeur, ça ne l'a pas échappé, le chef du gouvernement israélien ne bénéficie pas d'immunité.
Non, en effet, il n'y a pas d'immunité prévue par la loi israélienne, en tout cas pas actuellement, pour le chef du gouvernement dans des affaires financières. Alors, en faudrait-il une? C'est une question qui a émergé un petit peu ces derniers temps dans le débat public ici en Israël. La question a été posée en effet par certains élus de la Knesset, le Parlement, qui voient dans cette enquête qui vise le Premier ministre un acharnement contre le Premier ministre. Netanyahou lui-même estime que cette enquête vise à le faire chuter, ce que ses adversaires n'arrivent pas à faire, dit-il, par les urnes. Alors certains dans son camp évoquent du coup la possibilité d'une loi qui garantirait une immunité au chef du gouvernement en exercice, mais aucun texte pour l'instant n'a été déposé. Alors peut-être deux précisions quand même sur ce point-là, Juan. Faut souligner que Benjamin Netanyahou n'est pas entendu pour des décisions prises en sa qualité de Premier ministre, mais parce qu'il est soupçonné d'avoir reçu, vous le disiez, des cadeaux de la part d'hommes d'affaires, des cadeaux qui sont quand même d'un montant de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars ou d'euros. Mm-hmm. Et les enquêteurs se demandent s'il y a eu du coup des contreparties. Puis ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre en exercice est entendu par la police. Ce fut le cas d'Ehud Olmert, son prédécesseur au poste de chef du gouvernement. Olmert avait été mis en cause dans 6 affaires de corruption et de fraude qui l'ont poussé à la démission, c'était fin 2008. Il a finalement été condamné en 2015 à 18 mois de prison ferme pour avoir reçu d'une entreprise près de 15 000 euros de pot de vin dans le cadre d'un financement d'une de ses campagnes. Il est actuellement toujours en prison.
Oui, en tout cas, malgré ces allégations, on a l'impression que Benjamin Netanyahou est plutôt confiant, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'il a des démêlés avec la justice et jusqu'à présent, disons-le, toutes les enquêtes menées contre lui n'ont jamais abouti, faute de preuves. Alors c'est vrai, comme le disait Francis, notre auditeur, qu'il est populaire, qu'il est toujours en tête dans les sondages. Ceci dit, Guilhem Delteil, si jamais Benjamin Netanyahou est vraiment poursuivi dans le cadre de cette affaire, s'il est mis en examen, sera-t-il contraint de démissionner comme son prédécesseur Ehud Olmert?
Alors, une petite précision tout de même, c'est vrai que Benjamin Netanyahou, son nom a déjà été cité dans plusieurs dossiers, mais jusqu'à présent, les enquêtes qui le visaient étaient plutôt un stade d'enquête préliminaire. Là, il s'agit d'une enquête pénale ouverte véritablement directement contre lui. Elle a été validée par le procureur général d'Israël. Et jusqu'à présent, ça n'avait pas été à ce stade-là, hein, les enquêtes visant Benjamin Netanyahou. Alors, c'est vrai que le Premier ministre reste très très populaire, ça c'est incontestable. C'est son troisième mandat consécutif qu'il fait à la tête du gouvernement israélien. Et même si son parti est en recul dans les intentions de vote, eh bien il reste en tête au coude à coude avec Yair Lapid, le chef du parti centriste. Donc si on devait avoir des élections aujourd'hui, en omettant le fait qu'éventuellement il pourrait ne pas avoir à concourir étant donné les affaires, il serait un premier ministrable éventuel. En revanche, est-ce que Benjamin Netanyahou risque son poste? Alors oui, et même avant même une éventuelle condamnation, car la loi israélienne oblige un ministre en exercice à démissionner s'il est mis en examen dans une affaire de corruption. Alors, encore une fois, on n'en est pas là. Il a été entendu lundi soir pendant 3 heures. Il doit être à nouveau entendu demain. Lui affirme que ses cadeaux, bien, c'était de la bagatelle, selon ses mots, que le dossier est creux, qu'il n'y a pas d'éléments à charge contre lui. Mais certaines sources policières, citées par la presse israélienne, affirment qu'il n'a vu pour l'instant qu'une partie des éléments obtenus par les enquêteurs au cours des dizaines d'auditions liées à ce dossier. Reste que si l'affaire s'éternise, Benjamin Netanyahou pourrait être rattrapé par certains de ses propos avant la mise en examen, des propos qui datent de 2008 alors qu'il était dans l'opposition et qu'Ehud Olmert était lui entendu à ce moment-là dans des affaires de corruption. Benjamin Netanyahou avait jugé que le premier ministre de l'époque n'avait plus l'autorité morale nécessaire pour diriger le pays. On peut se demander si la façon qu'il a eu de marteler ces derniers jours aussi que cette affaire se dégonflerait comme les précédentes qui l'ont visé ne trahit pas une certaine nervosité dans le camp du premier ministre.
Oui, en tout cas, ces derniers jours, les médias israéliens n'hésitent pas à diffuser, rediffuser justement les propos de Benjamin Netanyahou à l'époque lorsqu'il l'appelait à la démission d'Ehud Olmert. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à Jérusalem, Guilhel Deltey. Francis, on a répondu à vos questions?
Oui, Ron, merci beaucoup et merci à Guillaume Deltey.
Guilhem Deltey. Bonne journée à tous les deux. 9h17 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va continuer à parler d'Israël. On va s'intéresser maintenant aux tensions diplomatiques entre Israël et le Sénégal. Je me fais le porte-parole de notre auditeur Amadou qui nous appelle d'Alger. On a des difficultés à le recontacter. Il nous dit, voilà, après le vote de la résolution contre les colonies israéliennes, Israël a pris une série de mesures contre le Sénégal. Assiste-t-on à une rupture diplomatique entre les deux pays et à quel point, nous demande Amadou, ces sanctions pénalisent-elles le Sénégal? Alors c'est vrai que le Sénégal est actuellement l'un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU a voté, on en a parlé évidemment sur notre antenne, une résolution condamnant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens et Israël ne décolère pas depuis l'adoption de cette résolution. Du coup, dans les heures qui ont suivi, eh bien, effectivement, Israël a ordonné une série de mesures contre le Sénégal. Bonjour Babacar Justin Diaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Dakar. Vous êtes analyste politique et éditorialiste pour le site Dakar Actu. Soyons clairs et rassurons peut-être notre auditeur d'Alger. En aucun cas, on ne peut parler en ce moment de rupture diplomatique entre Israël et le Sénégal.
Rupture, le terme n'est pas exact. Le terme ne recouvre pas la réalité. Il s'agit d'une dégradation, d'une détérioration des relations entre Israël et le Sénégal. Jusqu'au moment où je vous parle, l'ambassade d'Israël à Dakar n'a pas fermé ses portes. Il y a certainement un chargé d'affaires qui expédie les affaires courantes, mais l'ambassadeur a été retiré dans les plus brefs délais pour consultation.
Oui, Israël a rappelé, effectivement, oui. Israël a rappelé son ambassadeur à Dakar pour consultation. Il y a eu d'autres mesures quand même prises, puisque la visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères qui était prévue ce mois-ci en Israël a été annulée. Israël a également annulé ses programmes de coopération avec le Sénégal. Que sait-on exactement de ces programmes?
D'abord, il y a une série de mesures, vous avez raison. Le ministre des Affaires étrangères, Manker Ndiaye, qui devait aller au cours de ce mois de janvier en Israël en visite officielle, alors s'est vu notifier l'annulation de cette visite. Notre ambassadeur en Israël, mais avec résidence au Caire et non à Tel Aviv ou à Jérusalem, notre ambassadeur devait présenter ses lettres de créance au chef de l'État israélien, là aussi annulation. Mmh. Et il y a bien entendu des mesures de représailles dans le domaine notamment économique où Israël est présent. Vous savez, la coopération entre Israël et le Sénégal est une coopération, elle est dense, mais elle est bien délimitée. Elle porte sur deux axes, pour ne pas dire deux domaines. Le domaine hydro-agricole, avec la présence d'experts israéliens qui sont des spécialistes de l'agriculture, notamment de l'irrigation, et aussi de l'encadrement de l'organisation des producteurs, un peu comme ce qui se passe dans les kibboutzim en Israël. Mmh. Il y a maintenant deux domaines qui sont très sensibles et qui sont bien cloisonnés, c'est-à-dire l'armement et le renseignement. Alors, il est évident que ces deux domaines étant cloisonnés, il n'est pas facile d'être bavard là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Israël a une coopération très, très étroite avec les forces de défense et de sécurité du Sénégal, notamment dans un domaine très, très, très sensible comme le renseignement, où Israël excelle et où Israël est particulièrement bien apprécié et bien prisé en Afrique au sud du Sahara.
Ouais, en tout cas, le Sénégal assume totalement son vote à l'ONU. On a l'impression tout de même, Babacar Justin Diaye, que le Sénégal minimise cette brouille diplomatique. Alors, est-ce juste une impression ?
C'est une impression. En fait, le Sénégal ne se félicite pas de cette dégradation, bien au contraire. Mais le Sénégal aussi met en avant sa fierté, sa dignité et sa souveraineté, en disant que c'est Israël qui a pris une initiative unilatérale. Bon, quelque part aussi, on ne peut pas être l'avocat d'Israël, mais on peut comprendre son émotion et un tout petit peu sa colère. Vous savez, il s'agit d'une résolution portée par l'Égypte. Après, l'Égypte a fait demi-tour, donc passez-moi l'expression, l'Égypte s'est débinée, et le Sénégal, le Venezuela, la Nouvelle-Zélande et, ont porté cette résolution, et la Malaisie ont porté cette résolution. Alors, pour Israël, le Sénégal, certes, a une place centrale dans le processus de paix au Proche-Orient, ou en tout cas, il a été à la pointe de ce dossier en tant que président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975. Le Sénégal est à la tête de ce comité.
Depuis la création.
Mais le Sénégal n'est pas belligérant. Le Sénégal n'est pas pays arabe ni membre de la Ligue arabe. Donc Israël trouve que le Sénégal quand même a été un peu radical par rapport à des attitudes anciennement modérées et pondérées comme au temps de Senghor, au temps d'Abdou Diouf. Ouais. C'est un peu la source du malentendu.
Bon,
mais
bah,
le
écoutez,
Sénégal reste digne quand même.
Il reste digne et on le voit bien dans les propos du ministre sénégalais des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous, Babacar Justin Diaye. Je rappelle que vous êtes analyste politique au Sénégal. Vous étiez en direct de Dakar où on nous écoute sur place sur les 92 FM. Il est 8h22 dans la capitale sénégalaise. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Des questions sur les Rohingyas en Birmanie. Les Rohingyas considérés par l'ONU comme l'une des minorités les plus persécutées au monde. Sonny nous appelle du Cameroun. Bonjour Sonny.
Bonjour Juan. Bonne année à vous et à tous les auditeurs de RFI.
Merci de votre fidélité. Bonne année à vous. On vous écoute.
En Birmanie, le gouvernement lance une enquête sur les violences policières envers la population musulmane rohingya. Pardon, comment appeler la passivité d'Aung San Suu Kyi, pourtant connue pour ses positions en faveur des droits de l'homme?
Ah oui, bonne question. L'étrange silence d'Aung San Suu Kyi, qui est effectivement connue pour s'être battue pour la défense des droits de l'homme, Christophe Paget, elle est silencieuse, pour ne pas dire passive, comme le disait à l'instant notre auditeur, à l'égard des exactions dont sont victimes les Rohingyas. Comment peut-on l'expliquer ?
Alors d'abord, un rappel de la situation grave qui a lieu en ce moment dans l'ouest de la Birmanie. Depuis les attaques sur des postes frontières début octobre, la police mène une opération dans l'état de l'Arakan. Des dizaines de milliers de personnes ont fui, ce qui semble être de très graves exactions. Les 50 000 Rohingyas qui ont traversé la frontière avec le Bangladesh parlent de viols collectifs, de meurtres, d'actes de torture, de villages brûlés. Pendant trois mois, le gouvernement d'Aung San Suu Kyi a affirmé avoir la situation sous contrôle. Et si ce lundi, effectivement, il n'a ouvert une enquête, ce n'est que sur les faits rapportés dans une vidéo montrant un homme battu par des policiers. Pourtant, la Malaisie voisine parle de génocide.
Alors, justement, la question de notre auditeur est pertinente. C'est vrai qu'Aung San Suu Kyi est admirée dans le monde entier pour ce qu'elle a fait pendant toute la dictature militaire en Birmanie. Est-ce qu'elle est vraiiment passive, comme le dit notre auditeur ?
D'abord, Juan, la situation des Rohingyas n'est clairement pas en haut de l'agenda de la prix Nobel de la paix. Elle travaille sur la démocratisation de la Birmanie, sa relance économique, et puis elle veut aussi conclure la paix avec les minorités ethniques, dont certaines sont en rébellion avec le gouvernement central depuis des dizaines d'années.
Alors, les Rohingyas, justement...
Oui, pourtant, c'est effectivement une minorité ethnique, mais pas pour les Birmans, c'est là tout le problème. Ils estiment que les Rohingyas sont des immigrants illégaux, même s'ils vivent souvent en Birmanie depuis des générations. Ils les considèrent comme des apatrides, et depuis des décennies, ils leur interdisent l'accès au marché du travail, aux écoles, aux hôpitaux. Et Aung San Suu Kyi ne veut pas user son capital politique pour aider une minorité détestée par le reste de la population. Déjà, pendant sa campagne électorale, elle était restée très silencieuse à leur sujet pour éviter de perdre les élections. Aujourd'hui qu'elle a le pouvoir, elle dirige certes le pays, mais plusieurs ministères lui échappent. L'intérieur, les frontières, la défense, qui restent entre les mains des militaires qui peuvent donc mener ces opérations dans l'état de l'Arakan, loin de la capitale et d'Aung San Suu Kyi. Des militaires qui ont eu du mal à accepter la démocratisation et qui ne l'ont fait qu'à la condition de garder la haute main sur la question des minorités. Alors peut-être en Aung San Suu Kyi a-t-elle aussi peur d'un retour de bâton? Le temps de la dictature n'est pas si loin si, en quelque sorte, elle ne joue pas le jeu. Donc on voit, Aung San Suu Kyi semble avoir peu de marge de manœuvre, mais la crainte de tous ceux qui, à l'étranger, admirent depuis des années la dame de Rangoon, c'est qu'elle partage l'opinion de la majeure partie de la population birmane sur les Rohingyas. Aung San Suu Kyi a tendance, effectivement, à minimiser la situation terrible des Rohingyas. Depuis le mois d'octobre, depuis ces exactions qui seraient commises par la police, elle n'a pas changé de discours. Dans une interview le mois dernier, elle estimait que dans l'Arakan, il n'y a pas que les musulmans qui soient inquiets, les Arakanais sont préoccupés eux aussi par le fait que la population arakanaise diminue en pourcentage. Et elle a aussi conseillé à l'ambassadeur des États-Unis en Birmanie de ne pas utiliser le mot Rohingya, car dans le pays, beaucoup utilisent le mot Bengali pour souligner justement que les Rohingyas ne sont pas des Birmans.
Ouais. Il y a quand même eu des progrès faits ces derniers temps
quelques
par
gestes.
Le gouvernement.
Quelques gestes, voilà. Mais très peu, qui sont arrivés très tard. Aung San Suu Kyi a mis en place un comité piloté par Kofi Annan, chargé de trouver des solutions durables aux problèmes dans l'état de l'Arakan. Le mot Rohingya n'est même pas cité. Aung San Suu Kyi a aussi créé une commission gouvernementale chargée d'enquêter sur les crimes qui auraient été commis par l'armée depuis octobre. La commission a rendu son rapport préliminaire hier. Pas de cas de génocide, pas de persécution religieuse, preuves insuffisantes pour les cas de viol. Mais cette commission, pourtant mise en place par Aung San Suu Kyi, a un problème de crédibilité. Elle est dirigée par un ancien général.
Merci beaucoup, Christophe Paget, d'être venu répondre à Sonny qui nous appelait de Yaoundé, au Cameroun. Une question pour terminer maintenant sur l'assassinat, dans la nuit de samedi à dimanche, du ministre burundais de l'Environnement. Bonjour Eugène.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes sur place à Bujumbura, dans la capitale burundaise, on vous écoute.
Merci. Un ministre burundais de l'Environnement a été assassiné dans la nuit du Nouvel An à Bujumbura. Pourquoi avoir visé particulièrement le ministre de l'Environnement et quelles sont les informations dont dispose la police sur cet assassinat?
Oui, il a été abattu effectivement dans le centre de la capitale, dans un des quartiers résidentiels, alors qu'il était au volant de sa voiture. Bonjour Michel Arsenault.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique d'RFI. Depuis que le Burundi est secoué par la crise politique depuis donc maintenant 2 ans, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement est abattu. Que sait-on sur les motivations de cet assassinat?
Pour l'instant, rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que selon la police, 6 personnes ont été arrêtées dans un restaurant chic de Bujumbura qui s'appelle Chez André. Une passagère qui se trouvait à bord du véhicule. Donc, je fais la liste des personnes qui ont été arrêtées. Une passagère qui se trouvait à bord du véhicule, 2 gardiens, 2 veilleurs, comme on dit à Bujumbura, l'homme qui a ouvert le portail du domicile du ministre, et un second homme qui était à l'intérieur, donc un second employé. Le patron d'un bar et restaurant Chez André, où le ministre avait passé une partie de la soirée, et 2 clients ont eux aussi étaient arrêtés. Il faut donc attendre les résultats de l'enquête pour savoir le comment du pourquoi. Mais comme on n'a pas la réponse à ces questions, chacun y va de son couplet. Le président Nkurunziza a parlé sobrement d'un crime, mais le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a parlé d'un acte de terrorisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous en conviendrez. Cela revient à poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un crime crapuleux ou d'un assassinat politique, on ne le sait pas. Hier matin, Gaston Sindimwo, le vice-président du Burundi, a dit à Christophe Boisbouvier sur cette antenne, vous l'avez peut-être entendu, que c'était loin d'être clair, ces mots exacts, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un crime politique. Le bruit a couru qu'Emmanuel Niankourou s'était mis à dos quelqu'un qui souhaitait acquérir un site protégé, quelqu'un à qui il aurait dit non en tant que ministre de l'eau et de l'environnement, mais il ne s'agit que de rumeurs.
Donc, affaire à suivre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas de garde du corps.
Non, ce qui est un peu normal.
Ce qui est un peu normal.
Oui, c'est pas tous les ministres à Bujumbura qui ont des gardes du corps et des chauffeurs. En l'occurrence, Nkuru conduisait son propre véhicule.
Les décisions ont été prises. Il me semble que désormais tous les ministres seront protégés par un service de sécurité. Merci beaucoup, Michel Arsenault, d'être venu nous éclairer
Merci
sur cette
à
actualité.
Vous.
Priorité santé.